affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous recevons un écrivain qui a le goût des autres, qui a d'ailleurs consacré l'essentiel de son œuvre à nous introduire dans l'intimité d'autres écrivains et artistes. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Dominique Bonnat, de l'Académie française, auteur d'une douzaine de biographies de figures littéraires ou artistiques aussi différentes que Romain Gary, Colette, Stéphane Zweig, Berthe Morisot, Gala Dali et bien d'autres encore. Et si ces rencontres finissaient par tisser un récit, celui de sa propre vie? C'est en tout cas ce que nous invite à penser Dominique Bonnat dans « Mes vies secrètes », un ouvrage au fil duquel elle raconte la part cachée de son travail, ses enthousiasmes et ses doutes de biographe. Biographe, est-ce que Dominique Bonnat, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Si je vous qualifie de biographe, est-ce que cette définition vous convient ou est-ce qu'elle vous heurte ?
Oh, bien sûr que non, elle ne me heurte pas parce que le genre littéraire que je pratique, c'est bien la biographie. Mais en même temps, j'ai tout à fait conscience que ce mot biographe est un peu intimidant. Intimidant sans doute parce que ses racines grecques sont bien présentes, biographe. On préfère entendre romancier parce que le romancier, tout de suite, dès qu'on dit son nom, c'est la fantaisie, c'est l'imagination, c'est le rêve qui entre en scène. Tandis que le biographe appartient à un monde un peu austère, le monde des bibliothèques où on est enseveli sous les archives, on l'imagine à l'intérieur, travaillant près d'une lampe, etc. Donc, ce livre, au fond, je l'ai écrit pour redonner un petit peu de joie à ce mot biographe, un peu de vie sans doute aussi, pour rappeler l'origine même de ce mot, biographe, écrivain du vivant, c'est-à-dire rendre le vivant à des personnages du passé, les ramener près de nous et chercher finalement, peut-être dans un miroir, quel est le sens de toutes ces vies anciennes.
Alors tout ça, c'est le propos de votre livre, qui est une introspection, une sorte de confession et de réflexion sur ce qui vous a occupé tout au long de votre carrière d'écrivain. Mais tout ça commence beaucoup plus simplement, si j'ai bien compris, par un coup de foudre. Est-ce que vous pouvez nous parler de...
Oui, d'ailleurs, plutôt que carrière, parce que c'est comme le mot biographe. Le mot carrière, c'est aussi un mot inquiétant parce qu'il présuppose, au fond, une volonté au départ, un plan, une organisation. Alors que finalement, une vie s'écrit, j'allais dire, au fil des pages. Il y a beaucoup de hasard, il y a une part de chance et aussi de malchance, d'ailleurs, dans une vie. Mais tout ça n'est pas si organisé qu'on pourrait le croire. Et donc, au départ, en effet, de cette vie d'écrivain, eh bien... Il y a le coup de foudre et je m'en souviens très bien parce que ce sont des images qui frappent. J'avais 18 ans, j'étais en vacances dans le sud de la France, je suis originaire du sud et pour moi le soleil, tout ça c'est très important. Et là, pour mon anniversaire qui tombe en plein été, on m'avait offert un petit livre de poche. Et ce livre de poche, c'était Les Racines du ciel de Romain Gary. Voilà quel a été mon coup de foudre à 18 ans pour un auteur dont j'ignorais tout, mais dont je découvrais le royaume. Un royaume magnifique, c'était cette Afrique des racines du ciel, avec tous ces personnages animés d'un véritable feu intérieur. Ce Morel qui était venu défendre les éléphants en Afrique, cette Mina, la prostituée berlinoise qui est sa compagne, et puis tous ces personnages tout autour. Et surtout, le coup de foudre tenait à la voix qui racontait cette histoire, une voix d'homme, ça j'ai tout de suite entendu une voix d'homme dans ce livre, une voix profonde, grave, mais qui pouvait être joyeuse, qui avait de l'humour, qui tout à coup, à la jeune fille de 18 ans que j'étais, expliquait ce qu'étaient les rapports des hommes, des femmes, les enfants, les drames des enfants. J'ai compris la vie grâce à Romain Gary.
Et vous dites Gary a changé ma vie.
Oui, c'est une rencontre. Je suis sûre que beaucoup d'auditeurs de Canal Academy comprennent et peut-être ressentent ce que j'exprime là, qui est de l'ordre de l'irrationnel, bien évidemment, mais c'est une rencontre dans un livre avec un auteur essentiel. Bien sûr, j'avais beaucoup lu, toute ma vie est faite de lecture. Stendhal, enfin beaucoup, beaucoup d'auteurs ont compté, Mérimée, mais... comme Gary, aucun. Parce que Gary, tout à coup, m'a arraché complètement à moi-même, à un petit univers très balisé, très tranquille, à une vie sage, pour m'inviter à ouvrir des portes, des fenêtres, pour essayer de respirer large.
Donc ça, c'est un coup de foudre littéraire. Tout le monde, toutefois, n'a pas l'élan ou le goût suffisant pour ensuite avoir envie d'aller à la rencontre de l'auteur.
C'est
bien ça qui vous différencie d'un lecteur ou d'une lectrice qui a un coup de foudre pour un livre.
C'était sûrement très audacieux. Alors évidemment, je ne me suis pas lancée dans cette biographie à l'âge de 18 ans. Les années ont passé, j'ai fait des études, j'ai eu des enfants, enfin toute la vie s'est déroulée. Et puis j'ai écrit deux romans. Et ce n'est qu'à la mort de Romain Gary, peu de temps après sa mort, peut-être 2-3 ans après, que j'ai vraiment eu envie... parce que peut-être les articles de journaux ne répondaient qu'à une partie de mes questions, j'ai eu envie de me dire, mais qui était Romain Gary? Quel était cet homme-là? Parce que bien évidemment, je n'étais pas restée aux Racines du ciel, j'avais lu tous les autres Gary, j'avais lu les Hajar, j'avais un panorama à travers les livres, mais je ne savais toujours pas qui il était. Comme c'est un homme masqué, qui a même plusieurs masques successifs, parce qu'il y a tout de même le Gary russe, le Gary lituanien, le Gary juif, le Gary niçois, le Gary parisien, le Gary américain, il y a toutes sortes d'aspects de Romain Gary, et je voulais absolument savoir. Donc je suis partie à la recherche de Romain Gary, ça a été une enquête d'ailleurs très difficile, c'est probablement la biographie la plus difficile à écrire.
C'est pas le morceau le plus facile.
Non, c'est très très difficile parce que c'est un non seulement masqué, mais fugueur. Donc à chaque fois que je croyais l'atteindre, il allait un peu plus loin où il m'égarait sur des chemins de traverse. C'était une enquête. C'est un travail qui a ressemblé beaucoup à un travail d'enquêteur, presque d'enquêteur policier, j'allais dire, parce que au fond, comme il n'y avait pas de livre sur lui, il y avait ses livres à lui, mais pas de livre sur lui, il fallait absolument retrouver les témoins de son existence. Ces témoins étaient très nombreux, appartenaient à des milieux divers. Tous n'étaient pas du tout, n'étaient pas, comment dire... accueillant. Souvent, j'ai eu des portes qui se fermaient devant moi. Et donc, c'est une lutte. Ça a été un combat, ce livre. Mais finalement, en dépit des épreuves, en dépit des bouquets d'épineux qui se trouvaient sur ma route, j'ai gardé une grande reconnaissance, non pas peut-être envers Gary, parce que Gary, je l'admirais dès le départ et il m'intéressait énormément, mais une reconnaissance envers ce genre de la biographie, cette espèce de parcours qui consiste à retrouver quelqu'un qui a pourtant disparu, qui est mort et qui souvent a effacé des traces.
Vous, à propos de cette enquête, vous écrivez « Au royaume de Gary, j'allais vite apprendre que la frontière est mince entre la fiction et la vérité. Peut-être n'y a-t-il jamais eu de frontière. Le mentir vrai est une prouesse des romanciers. » Et s'agissant des biographes.
Oui, vous savez, c'est difficile. C'est justement, je crois que c'est le grand défi de la biographie, c'est de proposer à des lecteurs une vérité sur un personnage, d'aller au plus près de la vérité de quelqu'un, tout en sachant très bien qu'il n'y a pas de vérité absolue, une vérité avec un V majuscule. Il y a plusieurs vérités, plusieurs approches possibles d'un même personnage. Donc, le Gary que j'ai présenté, en un sens, c'est mon Romain Gary, même s'il y a dans ce travail une grande documentation, une enquête, quête vraiment abondante et précise, même si j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, il reste des imprécisions, des zones d'ombre, des incertitudes. Elles font partie aussi de mon livre. Et j'allais dire presque, je les revendique. Bien sûr, s'il y a des erreurs, je suis tout à fait disposée à les corriger, mais je crois qu'au fond, il n'y a pas d'erreur, puisque c'est ma présentation, mon portrait de Romain Gary. Un portrait qui a pour but de s'approcher au plus près de son visage réel, mais qui mesure la part d'incertitude qui appartient à chacun et qui doit être finalement respectée.
Et les zones d'ombre, ça donne du relief, hein ? C'est comme en culture
de l'ombre,
ça donne du relief.
En général, quand il y a beaucoup de soleil, il y a des ombres. Et ces ombres-là, c'est peut-être un peu le sel de la vie aussi. Si la vie était pure transparence, si on savait tout sur tout le monde, est-ce que la vie serait aussi intéressante ? Je ne crois pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est le mystère des êtres. C'est à la fois le sens d'une vie, mais le mystère aussi d'une vie. Comment cette vie s'est construite ? Comment elle s'est faite ? Et elle ne s'est jamais faite selon un plan, comme on disait tout à l'heure, mais selon beaucoup de choses incertaines. Des rencontres en particulier. Les rencontres, c'est essentiel, évidemment, dans une existence.
Lorsque vous évoquez ainsi la nécessité du mystère et les dangers de la transparence, est-ce qu'il vous est arrivé de finalement décider de retenir certaines informations, de non pas les garder pour vous, mais de ne pas les mettre justement en pleine lumière parce que vous pensiez que vous n'en aviez pas le droit ou parce qu'il était préférable, plus délicat. Ce qui est frappant dans l'ensemble de vos textes, c'est la délicatesse avec laquelle vous approchez des gens et la bienveillance aussi. Comment est-ce qu'on gère cette contradiction de nécessité de dévoiler et en même temps de rester sur une réserve nécessaire?
Oui, plus brutalement, la question serait, faut-il ou non se censurer ? Est-ce que le biographe peut se censurer ? Voilà. Est-ce qu'il a... Oui. Alors, je dois dire assez simplement que je ne me suis jamais censurée, au sens où, lorsque j'apprends quelque chose sur Romain Gary, sur Colette, sur Clara Malraux, j'ai à cœur de le dire, parce que ce qui se passe dans une vie, il n'y a pas à avoir honte des choses qui se déroulent. Donc, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine familial, les choses peuvent être dites. Tout dépend évidemment de la façon de les dire. On peut les dire avec accusation, on peut les dire... Alors, ce qu'il y a dans mes biographies, vous avez parlé de bienveillance, je ne sais pas si c'est bienveillance, mais en tout cas, il y a quelque chose que je n'aime pas dans la biographie, c'est le jugement. Je n'aime pas juger les êtres dont je raconte la vie. Ce qui m'intéresse, c'est de les comprendre. Il me semble que la littérature n'a pas à être un tribunal et l'écrivain n'a pas à être un magistrat, un juge, comptabiliser les actes qui sont bons, les actes qui sont mauvais. Non. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre un individu, savoir d'où il est issu, comment il a tracé son chemin, quelles ont été ses difficultés, quels ont été ses anges gardiens, comment il s'est sorti de tout ce pataquès d'une existence et comment il a tracé sa voie vers le but qu'il s'était donné. Et en l'occurrence, tous les personnages dont je raconte l'histoire, ce sont des artistes. C'est-à-dire, quelle a été leur voie d'artiste ? Comment ils sont arrivés à construire leur œuvre, souvent de manière courageuse, parce qu'il y avait beaucoup d'entraves, il y avait beaucoup de pièges sur leur route. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que cette soif de comprendre s'accompagne non seulement il n'y a pas tellement d'indulgence, bienveillance, mais plutôt, je dirais, d'une lucidité. C'est important, la lucidité, pour l'auteur d'un portrait.
Et parfois un petit peu de ferveur aussi, même si vous dites que la ferveur est l'ennemi du biographe.
Il faut trouver un juste équilibre entre la ferveur qui vous conduit parfois vers un sujet de livre, à choisir Colette ou à choisir Gary ou Zweig. Évidemment, il faut un peu d'admiration au départ, ou même beaucoup d'admiration. Mais tout de suite après, il faut cet esprit critique de l'auteur, c'est-à-dire un regard qui est capable de faire le tri dans les informations et qui n'a pas peur de regarder les défauts ce qu'on peut appeler les défauts d'un être humain. Bon, je n'écris pas non plus, si je n'écris pas de portrait à charge, je n'écris pas non plus un portrait qu'on pourrait appeler agiographique, c'est-à-dire à la louange d'un individu. Voilà, c'est cet équilibre qui n'est pas toujours aisé à trouver. Mais dans la vie, en général, l'équilibre, c'est compliqué.
Alors, certainement. Dans nos propres vies aussi, d'ailleurs, oui. Dans la vie tout court. Lorsque vous êtes lancé dans ce genre littéraire, donc la biographie, c'était Romain Gary, on l'a compris, c'était un coup de foudre et on le comprend bien. S'agissant des autres, on a quand même, on perçoit que ce ne sont pas des agiographies, qu'il y a beaucoup de lucidité, mais ce que l'on perçoit aussi, au-delà de la bienveillance, c'est un véritable amour pour tous ces personnages.
Hein. Oui, mais c'est vrai, parce que j'ai choisi évidemment de raconter l'histoire d'artistes que j'admirais, et au-delà de l'admiration, d'artistes qui me parlaient, qui me disaient quelque chose, chez lesquels je pouvais, je reviens toujours à ce jeu de miroir, mais chez lesquels je pouvais trouver des pistes personnel. Gary, c'est un message de liberté, d'esprit d'ouverture. Berthe Morisot m'a enseigné l'importance justement de l'harmonie dans une vie de femme. Essayer de concilier des choses si peu conciliables, la passion de peindre et la passion d'être une mère. Camille Claudel m'a enseigné qu'on pouvait aller jusqu'au bout d'un amour, au-delà de soi-même, cette espèce de don total qu'elle fait, et jusqu'au sacrifice suprême, puisqu'elle en perd la raison. C'est la femme d'un seul amour, c'est une femme qui n'a aimé que Rodin, et c'est un amour qui l'a conduit évidemment à l'asile psychiatrique. C'était beau, cette histoire à raconter, et en même temps, tout ça, ça vous grandit, ça vous change. Clara Malraux m'a enseigné qu'on pouvait être indomptable, qu'on pouvait ne pas se laisser faire, qu'il fallait lutter dans la vie, pas se laisser écraser par les circonstances. Et quant à Colette, alors là, Colette, c'est le message suprême, quoi. À la fois le talent, cette femme qui a une écriture prodigieuse, hein, qui écrit entièrement avec ses sens, qui écrit avec sa peau, qui écrit... c'est la très très grande Colette, j'admire énormément. Donc, mais en même temps, c'est vrai que je cherchais dans ces vies, au-delà peut-être de ce parcours qui est le leur, peut-être quelque chose pour moi, une sorte de proximité, une intimité chez ces personnages. L'intimité peut-être d'un dialogue, d'un échange.
Alors, en vous écoutant, j'ai le sentiment que le travail de biographe s'apparente, est évidemment un travail d'écriture, mais aussi à la lecture, presque autant qu'à l'écriture, finalement.
Oui.
Quand on se penche sur ses vies, c'est comme si on les lisait, comme si on se plongeait dans une œuvre de fiction, finalement.
Peut-être est-ce le roman, oui, roman de Romain Gary, roman de Colette, roman de Stefan Zweig, mais dans ce cas, un roman absolument vrai, où je n'ai inventé aucun dialogue, où je n'invente pas de personnages qui n'existent pas, où je ne rajoute pas des scènes de mon invention. Donc, il y a une sorte de rigueur biographique, c'est-à-dire historique, finalement, mais en même temps, et je l'espère, la lecture pourrait s'apparenter à celle d'un roman, parce que ce que je privilégie, en tout cas dans ma façon de raconter, c'est à la fois le portrait, la mise en scène et le récit proprement dit. Donc j'espère que, effectivement, ce sont des biographies, on va dire, qui se lisent comme des romans, bien que ce ne soit pas des romans.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que vous choisissiez vos auteurs comme vous auriez choisi de lire tel ou tel livre.
Oui, peut-être. Que... Ah oui, ça c'est autre chose. Ça c'est un... Oui, effectivement, même quand ce sont des peintres, c'est comme si je lisais un livre. Le livre de Berthe Morisot. Ou quand ce sont des femmes qui n'ont ni peint ni écrit, le livre de Gala, c'est-à-dire le livre d'une muse qui m'aurait peut-être raconté sa vie et que j'aurais transcrite.
Comme une collection d'expériences et de sensibilités qu'on
peut s'approprier. Ou une famille imaginaire.
C'est ça.
Une famille de choix, une famille choisie. Non que la mienne ne soit pas merveilleuse, j'aime beaucoup ma famille. Mais c'est agréable de pouvoir sortir du petit cercle familial, d'agrandir ce cercle familial et finalement de confronter son propre univers à des univers différents. Il me semble que ça, c'est la grande qualité de la lecture et de l'écriture.
C'est une petite revendication de subjectivité hein, dans ce que vous dites. On se projette dans ces personnages comme on peut se projeter dans des personnages d'œuvres de fiction.
Oui, je pense que...
Lucidité n'empêche pas la subjectivité.
Non, je pense sincèrement que le livre objectif n'existe pas. Si grand chercheur soit-on, je pense à des livres d'historiens tout à fait remarquables, je pense aux peinteurs de... au Proust de Painter, par exemple, mais il y en a bien d'autres, ce sont des livres qui présentent une apparence d'objectivité, qui proposent une science à la fois énorme et exacte, mais il n'empêche que dans chaque livre, il y a le regard de l'auteur. Et ce regard, c'est la part de subjectivité. Il n'y a pas de livre absolument objectif, alors on peut être objectif à différents degrés, j'espère l'être cependant, mais mon regard change forcément la donne.
La biographie étant un genre littéraire, vous avez forcément des maîtres, vous avez lu d'autres biographies de grands auteurs, j'imagine, lesquels ont votre préférence ou vous ont inspiré?
Oh, bien sûr, il y a des maîtres de la biographie. Parmi ceux-là, je citerai Stefan Zweig. En tout premier, parce que justement, il a cette sensibilité de l'écrivain. Il a une manière unique de s'approcher de ses personnages au plus près. J'aime énormément ces deux livres sur les reines décapitées, que sont Marie Stuart et Marie-Antoinette. Admirable livre. J'aime également les biographies d'André Mauroy. D'un tout autre style, parce qu'autant Zweig est vibrant quand il raconte, autant Mauroy est calme et paisible. Tous les drames sous sa plume deviennent longs fleuves tranquilles. Mais il y a une beauté vraiment de l'écriture dans le Shelley, dans le Byron, et même dans l'histoire d'Angleterre ou l'histoire des États-Unis, qui se lisent absolument comme des romans eux aussi. Le Racine de Mauriac. Qui est une splendeur, évidemment. Mais Mauriac s'est beaucoup interrogé sur ce genre de la biographie. Il a apporté, je trouve, quelques vérités très utiles quand on en écrit soi-même et je pense quand on en lit, parce que justement, il a abordé cette question de la vérité biographique à propos de Racine et bien dit que Racine, c'est son Racine, même si il a apporté énormément de documents pour enrichir la vision qu'on a de ce grand auteur.
Quand on se plonge dans vos textes, on sent que vous les aimez, je l'ai déjà dit. Donc, il y a le cas de Gary, c'est un amour initial, mais on a un peu le sentiment, parce que vous nous dites que vous écrivez au fur et à mesure de vos recherches. D'ailleurs, ça, c'est intéressant aussi. Moi, je m'imaginais que les biographes rassemblaient une documentation, classaient les différents documents ou sources qu'on a pu trouver par différents classeurs, les bougeaient pour construire un sommaire et cheminer, et puis ensuite se mettaient à écrire. Et vous, pas du tout?
Non, enfin, la première méthode est sûrement excellente. Grand 1, documentation. Grand 2, écriture. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans cette méthode-là. C'est vrai que je suis plus impressionniste quand j'écris. J'écris par petites touches. J'écris mes chapitres peu à peu. Bien sûr, au départ, il faut s'immerger dans l'univers, beaucoup lire à propos du personnage qu'on traite. Mais après, ce qui m'intéresse, justement, c'est la mosaïque. Je reconstruis complètement à la fois les épisodes d'une vie, les aspects d'un caractère, et donc j'avance, puis je reviens corriger un chapitre précédemment écrit, etc. C'est une méthode complètement impressionniste.
Oui, on a l'impression qu'on a le sentiment de cheminer touche. Avec eux.
Oui, j'aime ça. Parce qu'il me semble que si j'opérais la méthode 1, c'est-à-dire grand 1, documentation, il me semble que le livre serait terminé. D'ailleurs, dans la plupart des cas, il est terminé, c'est-à-dire que ça donne un ensemble d'informations qui passent directement de la fiche dans le texte. Alors que lorsqu'on écrit comme ça, on suit, comme je le fais, c'est-à-dire on suit le chemin dans les pas sans vraiment savoir ce qu'il y aura le lendemain. Et donc on ménage une sorte d'interrogation permanente au cours des chapitres.
Dans ce vaste travail, comment expliquer que longtemps, vous le dites à plusieurs reprises, l'université, la critique, considérait qu'il fallait se concentrer uniquement sur l'œuvre et que finalement, la personne qui l'avait écrite, ça n'avait pas tellement d'intérêt, notamment pendant vos études, c'était ça. C'est quand même une idée très curieuse de vouloir absolument séparer l'auteur de son œuvre.
Alors, je ne ferai pas le procès de l'université, d'ailleurs je ne le fais pas dans mon livre, parce que j'en suis issu, donc j'ai beaucoup de respect, évidemment, pour tout ce qu'on m'a appris à l'université, et je me souviens d'ailleurs avec bonheur de mes cours d'agrégation sur Paul Valéry, notamment sur la Jeune Park. Je me rappelle, pendant tout un trimestre, on avait scandé, pour ainsi dire, la Jeune Park, vers après vers. Il y en a 512 exactement. Et donc, ça a été à la fois un ahurissement et un enchantement, on peut dire. À la fois parce que ces vers nous déconcertaient, ils étaient très au-dessus de notre niveau intellectuel, mais en revanche, ils atteignaient les zones sensibles de la conscience. Il y avait une certaine volupté à lire la Jeune Park à haute voix. C'était merveilleux. Mais c'est vrai que la biographie était une sorte d'interdit. C'est-à-dire, on nous avait enseigné à regarder l'œuvre en soi et à bien la séparer du personnage qu'il avait écrite. Donc, l'œuvre, c'était presque une entité abstraite. Or, cette approche m'a toujours semblé étrange. Bien sûr, c'est bon de goûter la stylistique de la Jeune Park, d'examiner les rimes, les césures au milieu d'un vers, d'apprécier le choix des mots de Valéry, c'est admirable. Ça devient comme un tableau abstrait. En revanche, moi, je me suis toujours intéressée à la vie la plus simple, la plus banale, la plus concrète, la plus prosaïque, à la vie familiale, à la vie amoureuse. Je me disais, ce n'est pas possible. La Jeune Park n'est pas issu d'un pur esprit. Même si Paul Valéry a écrit un livre dont le personnage est Monsieur Test, on ne peut pas dire que Valéry est uniquement un cérébral. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, j'ai bien découvert cela en écrivant « Je suis fou de toi », qui est l'histoire amoureuse de Paul Valéry avec Jeanne Voilier, et montrant Valéry écrivant des poèmes d'amour d'une simplicité émouvante, disant à Jeanne Voilier ces petites phrases qu'on pourrait se dire entre soi, je suis fou de toi. Donc c'est une autre approche, c'est un autre homme, et il est très beau de comprendre comment un homme capable d'écrire des lettres d'amour si simples est aussi l'auteur de la Jeune Park et d'un certain nombre de livres majeurs de la littérature française.
Et par surcroît, souvent, ces biographies, la connaissance plus intime des auteurs, permet d'éclairer l'œuvre. Il ne s'agit pas d'avoir l'étude de l'œuvre d'un côté, l'étude de l'auteur de l'autre. Il y a des correspondances très fortes, et vous en donnez...
Oui, c'est valable aussi pour les peintres. Par exemple, Berthe Morisot. Berthe Morisot irradie sur ses toiles des couleurs douces, douces et fiévreuses. Elle peint au pastel, elle peint en rose clair, en blanc, vert pâle. Mais à côté de cela, Manet, qui a peint 11 fois Berthe Morisot, l'a représentée 9 fois sur ses 11 en noir. Un noir funèbre, avec un grand chapeau, un col qui monte jusqu'au menton, un air sévère. Il déforme parfois son visage au point qu'on a l'impression d'être en face d'un Goya, presque un monstre sur deux ou trois de ses représentations. Il y a un contraste énorme entre ce que Manet a vu chez Berthe Morisot et ce que nous voyons de Berthe Morisot, signé par elle, ses tableaux du bonheur familial, du bonheur maternel. Eh bien, c'est ce contraste-là que j'ai voulu étudier en écrivant cette biographie. Où est Berthe Morisot? Est-ce qu'elle est dans le pastel ou est-ce qu'elle est dans le noir de Manet? Qui était-elle, cette artiste peintre, femme capricorne, un peu sévère, tourmentée? Et j'ai découvert, en effet, une femme beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Est-ce que c'était une faute d'aller chercher Berthe Morisot? Est-ce que, justement, cette vision de Berthe Morisot ne complète pas l'œuvre admirable qu'elle a laissée? Est-ce qu'elle ne permet pas d'en donner d'autres reflets, d'autres chatoyances?
Certainement si. Ce qui étonne par ailleurs dans le vol, c'est la façon dont l'ensemble des auteurs que vous avez traités, il y a quand même des jeux de correspondance, des passages souterrains, des destins qui se croisent à travers tel ou tel personnage. Est-ce que on a l'impression que ça obéit à une sorte de plan secret, qui, pas prémédité, mais une sorte d'alignement de planètes qui vous aurait poussé à explorer un univers où chacun se répond.
Oui, c'est curieux ce phénomène, parce que je n'en avais pas conscience au départ, mais les livres s'écrivant peu à peu, quand j'ai décidé justement d'écrire Les Vies secrètes et de regarder en arrière dans le temps passé, j'ai vu à quel point les personnages circulaient d'un livre à l'autre, se retournaient un peu comme s'ils étaient interchangeables, avec des passagers clandestins comme Debussy, comme Pierre-Louis, auxquels je n'ai pas consacré de livre, mais qui viennent régulièrement passer ici ou là et apporter un autre éclairage. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression, au fond, que les personnages de mes livres se donnaient la main.
Très important que vous ayez parlé de Pierre-Louis, parce que j'ai compris maintenant qu'il fallait dire Pierre-Louis et pas Pierre-Louis. C'est gentil de l'avoir précisé.
C'est lui-même qui le souhaitait quand il a transformé la graphie de son nom, qui était tout simplement Louis comme le prénom, et il l'a enjolivé, un peu à la manière des moines du Moyen-Âge, en mettant un Y et un tréma sur le Y, à la place du simple I.
Alors, j'étais content que vous en parliez, car on découvre à cette occasion l'importance des personnages secondaires. C'est vrai que dans les biographies, on a un peu tendance à se focaliser sur l'auteur dont le livre est l'objet, mais si on prend l'ensemble de votre œuvre, on réalise qu'il y a des personnages secondaires qui ont une forte place et de la chair, et qui donnent presque leur sens à l'ensemble, en quelque sorte.
Oui, ce sont des personnages qui ont beaucoup de charme, les personnages secondaires. Parce qu'ils ne font que passer. On n'a pas à les explorer entièrement, mais ils sont là quand même, et alors donc on les décrit, on les voit physiquement, on décrit aussi leur caractère, et ils appuient parfois sur l'action, sur le déroulement de l'intrigue, parce qu'il y a une intrigue dans une biographie, comme dans un roman, presque comme dans un roman policier. Donc ce personnage secondaire, il est essentiel, en fait. Et en plus, il permet une sorte de mise en relief, vous voyez, parce que parfois, la biographie, c'est un peu comme le moule à gaufre, vous voyez. Vous appliquez un moule, la naissance, les années d'apprentissage, les années mûres, et puis jusqu'à la mort. Et ça, c'est très ennuyeux, cette espèce de déroulé chronologique. Donc, parfois, un personnage secondaire indique une autre piste. On a l'impression qu'on pourrait le suivre assez loin et peut-être même changer le déroulé.
Ce qu'il aurait pu advenir.
Ça n'arrive évidemment
pas. Ce qu'il aurait pu advenir.
Mais c'est comme un vertige.
Ce qu'il aurait pu advenir.
Oui, ce qu'il aurait pu advenir. Par exemple, Debussy et Camille Claudel. Debussy et Camille Claudel, lorsque j'ai écrit ma biographie de Camille Claudel, je pensais entièrement resserrer sur Camille, sur Audin, sur Paul Claudel surtout, puisque ma biographie était sur les rapports du frère et de la sœur. Mais il y a tout d'un coup un épisode Debussy. Debussy et Camille se sont très bien connus. Camille, qui n'aimait pas la musique, aimait quand même la musique de Debussy, venait l'écouter chez des amis où il jouait à son piano. Et quant à Debussy, il a eu toute sa vie sur son piano le groupe de la danse, de la valse plus exactement, de la valse de Camille Claudel. Ces deux valseurs enlacés, magnifiques. il a eu toute sa vie, il a composé en regardant la valse de Camille Claudel. Donc évidemment, ça aurait été merveilleux de pouvoir raconter là une histoire d'amour. J'ai évidemment beaucoup cherché pour voir si je ne trouvais pas des lettres, des documents qui auraient été sauvés, tout ça. Mais bien évidemment, je n'ai pas trouvé. Donc j'en suis restée à l'esquisse d'une rencontre, même pas l'esquisse d'une histoire d'amour, mais l'esquisse d'une rencontre qui aurait eu des lendemains. Et qui n'en a pas eu. Peut-être.
Ça peut être tentant de c'est peut-être une piste de dire, tiens, si...
Ah ben une romancière, il serait allé. Évidemment, évidemment. L'Uchronie, c'est la tentation, évidemment, à chaque fois. On est tenté de faire dévier le cours de l'histoire, de transformer soi-même ce qui advient.
Surtout dans ce cas-ci.
Donc, écrire une histoire d'amour entre Camille Claudel et Claude Debussy, mais vraiment, qui n'en rêverait ?
Peut-être permis de la sauver.
Mais c'est interdit, c'est interdit dans le genre de la biographie, parce qu'autrement, alors, on tombe dans le genre romanesque. Qui est finalement, j'allais dire, plus banal d'une certaine façon, parce que ce qui est beau dans la biographie, c'est que, et ça je m'en suis rendu compte seulement assez tard, c'est que toutes ces vies réelles sont souvent beaucoup plus romanesques que les vies inventées, que les vies imaginaires. Et il est vrai que parfois, il y a des détails qu'un romancier n'aurait pas osé imaginer. Par exemple, le départ du jeune André Malraux avec son épouse, ils ont à peine 20 et quelques années, pour le Cambodge, où ils sont allés piller un temple, le temple de Mantasray, avec un matériel qu'ils avaient commandé avant de partir à l'équivalent de la Samaritaine, on va dire. Donc des pioches, des haches pour la pierre, etc. Ils étaient très très bien équipés, des casques coloniaux. Donc tout ça, vraiment, c'est un trait tellement inouï qu'un romancier ne peut pas l'inventer.
On dirait une BD d'Hergé.
Exactement. Tintin au Cambodge.
C'est ça. Je passe au vieux campeur et ensuite j'y vais. De fait, il y a de ça, mais à plusieurs reprises, vous y revenez. D'ailleurs, effectivement, c'est peut-être dû aussi au choix des personnages, mais leurs vies sont extrêmement, extrêmement romanesques, tragiques. Enfin, il y a tous les éléments qu'on aimerait retrouver dans un roman.
Bon, c'est vrai que j'aime les vies romanesques. J'aime beaucoup les aventures dans une vie, et c'est pourquoi il est parfois difficile. J'ai souffert, notamment avec Stéphane Zweig, lorsqu'on écrit un portrait de Stéphane Zweig. Là, on est devant un portrait d'intellectuel. Zweig a quand même passé beaucoup de temps à sa table de travail, à écrire. Donc le biographe, là, quand Zweig écrit, il est un petit peu embêté, une fois qu'il a... parce que bien évidemment, je raconte ce qu'il écrit, comment il l'écrit. Mais enfin, le biographe qui doit écrire le vivant, c'est un peu compliqué. Et alors, on a autre chose quand même à raconter avec Zweig. D'abord, on a les décors où il a vécu,
oui, les lieux.
Cette Europe, cette vieille Europe qu'il a aimée profondément. On a aussi les amitiés, car il a été l'ami de nombreux écrivains et musiciens européens. Donc lui, il vivait à l'échelle de l'Europe, et d'ailleurs, il vivait aussi à l'échelle du monde, parce qu'il a beaucoup voyagé dans le monde. Et donc, la description de ses amitiés est certainement des plus grands bonheurs d'une biographie de Stéphane Zweig. Après quoi, évidemment, il y a aussi à raconter cette descente aux enfers, qui est la sienne, la Grande Dépression, que fait naître en lui la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il a déjà traversé la Première, il en a été terriblement meurtri. Son pays, l'Autriche-Hongrie, a été quasiment rayé de la carte au lendemain de la Première Guerre. Tout cela le marque profondément, et de voir cette montée des périls, le nazisme, etc., pour lui, ça a été trop. Et cet homme qui était un hypersensible, qui disait que lorsque une maison s'écroule, il s'écroule avec elle, c'était sa formule, dès les années 30, eh bien, c'est compliqué. Voilà, il faut être au plus près de lui, et en même temps, il vous entraîne dans des zones extrêmement sombres.
L'ensemble des contraintes qui sont celles du réel, de la lucidité, du travail d'enquête, ne permet-elle pas aussi finalement de se surpasser un petit peu comme, je ne sais pas, des règles d'Alexandrin ou pour un peintre la nécessité de se fondre dans des règles académiques, on va dire, lui permet de surmonter, d'aller au-delà dans son art, finalement, par rapport au roman.
Oui, les règles sont parfois utiles. Oui, les règles sont parfois... Oui, au roman, tout est permis. Voilà. Vraiment, surtout au XXIe siècle, vraiment, le roman, tout est permis dans l'écriture, dans l'imaginaire, dans les sujets choisis, etc. Alors que, évidemment, lorsqu'on raconte la vie de quelqu'un, c'est différent. On a forcément des règles, le respect de la vérité, la rigueur de l'approche, l'importance accordée à la documentation, aux archives, tout cela évidemment balise énormément l'écriture. Mais il ne faudrait pas que ces règles deviennent trop contraignantes non plus, parce qu'il me semble que le but de la biographie, qui est donc de recréer le vivant, demande tout autant d'imagination, parce qu'il faut tout de même abandonner son petit monde à soi, changer d'époque, ça c'est très important, changer de peau, ça aussi c'est très important, pour essayer de comprendre un individu dans le contexte qui a été le sien, un contexte à la fois social, familial, historique, enfin tout ce qu'on peut envisager. Et voilà, donc imagination aussi pour le biographe, je pense sensibilité n'est pas non plus absente. Il y a évidemment un désir de rejoindre le personnage, il y a une volonté d'osmose avec lui, il y a au-delà de la sympathie, vous voyez, quelque chose qui vous amène vers lui. Qu'est-ce qu'il y a comme grande qui peut rapprocher? J'allais oublier l'essentiel, la liberté. Liberté du regard. Je crois que ça aussi, c'est très important, cette liberté du regard, au fond, c'est la même pour le romancier et le biographe, vis-à-vis du personnage. Ce personnage à la fois vous le construisez, mais c'est lui qui vous impose en même temps ses règles. Vous savez, on dit toujours que pour un romancier, c'est le personnage qui domine. C'est pas le romancier qui domine le personnage, c'est le personnage qui domine le romancier. Eh bien, c'est la même chose dans la biographie. On croit qu'on est maître à bord, mais on n'est pas maître à bord. Parce que votre personnage, le personnage, souvent échappe et souvent vous entraîne dans des voies que vous n'aviez pas devinées.
Écoutez, ça tombe très bien, je voulais vous demander de terminer par les qualités nécessaires pour être un bon biographe. J'ai quand même une dernière question, est-ce que du coup ça s'arrête là? Vous avez d'autres travaux en cours?
Bien sûr, oui, j'ai toujours un sujet de livre, mais je prends mon temps pour que mes vies secrètes s'éloignent un peu, comme une bouteille à la mer, et me laissent l'esprit libre à nouveau pour aller vers un autre univers.
Bien. Nous n'aurons pas de confidence aujourd'hui, j'ai compris. Restons-en aux vies secrètes, donc très très beau livre. Et qu'il faut conseiller d'une part à tous les amoureux de la littérature en général et des auteurs qui sont des auteurs et des peintres qui sont évoqués, mais peut-être aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme une collection d'expériences qui permet d'élargir le champ de notre propre vie, chacun d'entre nous. Merci Dominique Bonnat. Vos vies secrètes sont éditées chez Gallimard. Et j'espère vous recevoir bientôt pour une nouvelle biographie ou peut-être un roman si vous y revenez un jour.
Alors je vous dis à bientôt et je vous remercie.
Merci à vous. Thank you.